RFI.
Alors, on dit quoi?
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices depuis l'Arena de Montpellier dans le sud de la France, au sommet Afrique-France qui place la jeunesse d'Afrique et de la France au centre des discussions de ce partenariat qui se réinvente. Les échanges se sont déroulés autour de cinq grands thèmes, l'industrie artistique et culturelle, l'entrepreneuriat, l'économie et les nouvelles technologies, l'engagement citoyen et l'enseignement supérieur et l'innovation. 3000 jeunes de la société civile africaine, dont 500 entrepreneurs, y ont pris part. Certains sont avec nous sur notre plateau. Comment cette jeunesse d'aujourd'hui veut bâtir l'avenir des relations entre le continent africain et la France? Quelle place et quelles opportunités pour les jeunes dans ce nouveau dialogue? J'en parle tout à l'heure avec mes invités.
Alors on dit quoi? Fenaïd Traoré.
Avant d'entrer dans la discussion, comment les jeunes perçoivent aujourd'hui les relations entre l'Afrique et la France, écoutons ces messages de quelques auditeurs.
Moi, je m'appelle Seydou, je vis au Cameroun et j'ai 24 ans. La relation entre l'Afrique et la France est une relation à revoir parce que l'Afrique et les Africains donnent beaucoup à la France, mais en retour, la France ne les considère pas, car elle minimise et chosifie les Africains. On ne leur donne pas la valeur qu'ils méritent. Cette situation doit changer si la France veut être soutenue encore et toujours par l'Afrique.
Bonjour l'équipe, alors on dit quoi? C'est Emmanuel, j'ai 21 ans et je vous parle depuis le Congo-Brazzaville. Alors pour moi, la relation Afrique-France, je l'entrevois plus directe, plus intense entre les différents acteurs, les professionnels. Et je pense également à une conscience, en tout cas de la diaspora française, qui aujourd'hui va beaucoup impacter l'Afrique, notamment avec leurs idées, avec leur financement, avec plus de partenariats de business, de transferts de savoir, des expériences, notamment sur le plan de l'enseignement. Donc on s'attend à ces changements-là.
Ouais, salut, alors on dit quoi? C'est Tatanizo depuis Kinshasa. Ouais, c'est que moi j'aime bien dans la relation Afrique et France, c'est au niveau culturel et artistique. Avec la France qui a tous ses centres instituts français, tous ses centres culturels, qui l'a planté un peu partout en Afrique, ça fait vivre vraiment l'art africain.
Salut RFI, bonjour à tous. Alors on dit quoi? Je m'appelle Aboubakar Zakari, je réside au Togo. Pour ma part, je pense que la relation Afrique-France est une relation tout simplement naturelle. Nos pays ont une histoire commune avec la France. Malheureusement, plusieurs aspects de cette histoire démontrent que la France a une dette envers l'Afrique. Et donc, en tant que jeune Africain, c'est une relation qui m'inspire de la méfiance à l'avenir. C'est dommage de le dire, mais c'est comme ça. Je dirais alors que nous devons repenser cette relation, tirer des leçons du passé, un passé dont nous ne sommes pas des acteurs, mais des héritiers. Je dirais également que le développement de l'Afrique se fera avec ou sans la France, qui ne veut pas reconnaître ses racines africaines, pour reprendre les termes d'Achille Mbembe, et qui oublie que Brazzaville a été la capitale de la France libre.
J'accueille mes invités qui ont bien entendu ces auditeurs avec nous. Bonjour Aïssa Banoro.
Bonjour Penaï.
Vous êtes lauréate 2017 du concours Challenge App Afrique RFI et France 24. Vous êtes entrepreneur dans l'éducation et le numérique. Votre entreprise représente Simplon en Côte d'Ivoire, une entreprise française sociale et solidaire. C'est bien ça? Je n'oublie rien.
Exactement.
Alors également avec nous, Aïssata Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de l'association Cœur du Fouta et co-directrice en charge du co-développement et de l'engagement des jeunes.
Tout à fait.
Bienvenue.
Merci pour l'invitation.
Alors, vous avez écouté ces jeunes qui sont sur le continent. Une réaction particulière par rapport à ce que vous avez entendu?
Oui, après, je pense qu'il y a la question vraiment de la place des jeunes et du partenariat gagnant-gagnant, parce que c'est vrai que les relations Afrique-France ou France-Afrique, pendant des années, ça a été une relation France-Afrique. Et aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas la jeunesse africaine, souhaite que cette tendance soit inversée. Ça veut dire qu'ils soient vraiment replacés aussi au cœur des préoccupations. Parce qu'on le dit et on le sait, d'ici 2050, la population africaine sera jeune. Oui. Donc ça veut dire en fait que l'avenir est tourné aujourd'hui vers l'Afrique. Et pour qu'elle soit aujourd'hui co-construite avec la France, il faut qu'on donne cette place à cette jeunesse de la diaspora ou cette jeunesse africaine.
Aïssa Banoro, vous qui êtes venue de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez senti que le regard des jeunes a beaucoup changé par rapport à ces relations entre la France et l'Afrique?
Déjà, il faut observer le casting de
de ce nouveau sommet, il n'y a que les jeunes qui ont été invités. Oui. Ça veut dire que la France a vraiment un désir de collaborer avec le continent français, le continent africain, mais de collaborer surtout avec la jeunesse africaine. Donc, on observe, on regarde, mais depuis un moment, on a des jeunes africains qui sont de plus en plus ouverts vers le monde. On a des jeunes de plus en plus qui ont des rapports de qualité avec le reste du continent. Donc, qui veulent faire entendre leur voix, qui veulent avoir une place de choix dans tout ce qui se passe dans ces relations Afrique-France.
Aïssatou Anne, l'une des missions de votre association est de fédérer les associations de jeunes et favoriser leur mobilité internationale et promouvoir également les actions citoyennes solidaires à l'échelle locale et internationale. Pensez-vous qu'on peut tendre vers cela avec la nouvelle version des relations Afrique-France voulue par Emmanuel Macron ?
Oui, je pense que par rapport aux actions que l'on mène aujourd'hui au sein de l'association, déjà l'engagement, c'est quelque chose de fort. C'est-à-dire, c'est des valeurs qu'on a partagées et c'est des valeurs que les jeunes partagent aussi. La solidarité, l'engagement, pour nous au sein de l'association, c'est vrai que au départ, c'était vraiment des actions. Parce qu'en fait, nos parents étaient engagés au Sénégal. Donc l'idée, c'était de savoir un peu comment les jeunes pouvaient prendre la relève, quelle place les jeunes ont mis au sein des associations. Et c'est vrai que l'engagement aujourd'hui, pour justement que les jeunes aient ce lien avec leur pays d'origine, on propose chaque année des chantiers solidaires. Oui. Des chantiers solidaires avec des jeunes de différents profils. Ça peut être des étudiants, ça peut être des jeunes en insertion. Et c'est vraiment de travailler aussi sur ce levier pour que les jeunes aient toute leur place et puissent accompagner et puissent s'insérer aussi professionnellement. L'idée aussi, c'est que dans ce partenariat Afrique-France, que les jeunes aussi trouvent leur place et aussi gardent leurs racines et cet héritage finalement africain, parce que c'est vrai que la question de la double culture.
Oui, particulièrement, vous êtes de la diaspora, vous êtes d'origine sénégalaise, mais vous êtes de la diaspora, donc il y a ce double regard-là de la personne qui est de la diaspora, mais qui a aussi le regard tourné vers l'Afrique.
Oui, c'est important. Je pense que, en tout cas, nous, enfin, de par ma culture, en tout cas, mes parents m'ont toujours inculqué, en tout cas, ce regard vers l'Afrique, de dire qu'à un moment donné, nos parents l'ont fait pendant des années. Il faut que cette jeunesse aussi, de par ses compétences, de par ses diplômes, de par aussi ses propres expériences, puisse aussi redonner à l'Afrique et puisse accompagner aussi ses projets de co-développement dans le domaine de l'environnement, l'éducation, la santé. Donc, pour nous, c'était important que l'association aussi puisse fédérer à la fois ces associations pour qu'elles puissent œuvrer et avoir un impact social, économique, environnemental, en tout cas dans leur pays d'origine.
Vous faites d'ailleurs une sorte de pont entre la France et le Sénégal.
Vos
actions vont jusqu'au Sénégal.
Oui, les actions qu'on importe au Sénégal, généralement, ce que l'on propose, en tout cas, c'est des caravanes santé, donc pouvoir dispenser des consultations gratuites aux populations, c'est-à-dire que les jeunes travaillent le projet en amont ici, avant de partir avec une restitution. On accompagne aussi des groupements féminins, c'est-à-dire à mettre en place des jardins maraîchers, c'est-à-dire en leur mettant en place, en les accompagnant sur le matériel technique, les équipements, le système d'adduction d'eau. On travaille aussi récemment sur un projet qui s'appelle Classe numérique pour l'Afrique. Oui. Et justement, c'était ce lien justement entre un collège ici en France et un collège au Sénégal. Du coup, qu'ils puissent avoir les mêmes conditions de travailler et vraiment aussi favoriser la réussite des élèves aussi bien français que sénégalais. Le numérique, en tout cas, comme levier d'éducation.
En parlant de numérique et de l'éducation, ça parle à Raissa Banoro, justement. C'est vous, ça. C'est votre créneau.
C'est ça. Nous sommes dans la formation et l'insertion des jeunes. Nous, en fait, en Côte d'Ivoire, on essaie de sortir les jeunes défavorisés, les jeunes qui n'ont pas eu accès à l'éducation. On les forme dans les métiers de numérique et on les insère. Donc, on est majoritairement sur des personnes en situation sociale difficile, les femmes vulnérables, des personnes en situation de handicap. Oui. Et ce sont ces personnes-là qu'on essaie, en fait, de former et d'insérer.
Et vous, vous servez également du numérique pour pouvoir mettre en lien des jeunes d'ici et des jeunes. Quand je dis d'ici, c'est des jeunes de la diaspora, puisque nous sommes en France, et également les jeunes qui sont sur le continent.
Exactement. En fait, on a des écoles un peu partout, donc Simplon a près plus de 86 fabriques dans le monde, en Afrique, en Europe et en Asie. Donc tous nos apprenants sont interconnectés, donc ils sont en lien avec les apprenants de la France, les apprenants de l'Asie. Donc on n'a pas de barrière, donc les apprenants africains ne se disent pas qu'ils ont du contenu africain, ils doivent forcément travailler en Afrique. Mmh. On a la possibilité de les insérer en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui crée, en fait, c'est ce qui fait notre particularité et ce qui permet, en fait, de pouvoir généralement avoir un taux d'insertion de 100% parce qu'il n'y a pas de barrière.
À part ça, quelles peuvent être les autres opportunités qu'on peut sortir de l'éducation et le numérique? Quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir aux jeunes qui sont sur le continent?
Déjà, avoir accès à la formation. Ouais. Déjà, aujourd'hui, avoir accès à la formation, c'est avoir... permettre à un jeune de pouvoir rêver. Donc, avec ce nouveau partenariat, le jeune, en fait, il ne se sent plus cloisonné dans son Afrique. Il a une certaine ouverture, il s'est dit qu'en plus, on est en compétition aujourd'hui avec le numérique, on est en compétition avec tout le monde, avec tous les jeunes dans le monde. Donc, on ne s'est dit plus, ah oui, moi, je suis africain, je vais forcément travailler en Afrique, j'ai pas accès à l'éducation, j'ai pas accès à un certain type de contenu. Non, aujourd'hui, nous sommes dans un monde interplanétaire, donc on doit pouvoir avoir accès à tout. On doit pouvoir aller dénicher des opportunités au-delà, en fait, de nos frontières. Mmh. Et c'est ce que offre le numérique aujourd'hui.
Et on voit qu'avec le télétravail qui s'est généralisé avec la crise sanitaire, il y a des gens qui sont sur le continent, qui travaillent pour des entreprises qui sont en Europe ou en Asie.
Exactement. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, 40% de nos apprenants travaillent dans des entreprises françaises. Ils sont à Abidjan et ils travaillent dans des entreprises françaises. On a de plus en plus de demandes de compétences sur le continent parce que nous, on a la possibilité, en fait, de pouvoir former des jeunes en fonction des besoins des entreprises. Oui. Donc, les entreprises en France nous donnent les cahiers de charges. On a besoin d'apprenants avec tel type de compétences. Nous, on les forme et la personne travaille à distance avec ces entreprises-là.
Aïssatou, Anne, c'est quelque chose qui est très important, la formation, l'éducation des jeunes.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que nous, la force qu'on a eue au niveau de l'association, c'est déjà travailler sur le double espace, à la fois ici en France et aussi au Sénégal, parce que là, on est la diaspora sénégalaise. Et c'est vrai que la force aussi qu'on a eue, c'est pendant la crise du Covid, en fait, on a mobilisé des personnes pour créer une manufacture de fabrication de masques. Oui. Donc du coup, cette question-là, on a pu distribuer plus de 35 000 masques, on a pu recruter plus de 17 personnes, des mamans qui n'avaient jamais travaillé. Donc cette question d'insertion, du coup, elle devient de plus en plus prégnante. Donc aujourd'hui, on a créé un pôle ESS, Économie sociale et solidaire, Innovation sociale. Et suite à ce projet, on va également mettre en place un tiers-lieu numérique. Parce qu'on veut à la fois travailler sur l'inclusion numérique, parce qu'on sait qu'en 2022, en France, il y a beaucoup de choses qui vont être dématérialisées. On sait qu'au Sénégal aussi, la question du numérique, elle est de plus en plus prégnante. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a le smartphone, il y a tout ce qui est WhatsApp. Enfin, il y a des moyens de communication aujourd'hui qui sont très prégnants au niveau du Sénégal. Et c'est vrai qu'il y a des formations aussi qui vont être proposées pour faire le lien avec des jeunes d'ici et des jeunes de là-bas.
Alors, on dit quoi ?
Et on y va pour une petite pause, hein, tout en douceur.
First let me say to you, I can't wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I dey pray for you. That's why my heart it a beat like do do bang, do do bang. Cause now you I choose, oh I am family, I'm your friend. I sing for you and I be like do do bang, do do bang. Baby now you I go pick, oh I am family, I'm your friend. What the me see I may not give the word to you, but I give you what I have.
Oh,
la chaleureuse voix de la chanteuse nigérienne, Simie, et le titre Duduke. Alors on dit quoi sur RFI? Comment les jeunes peuvent proposer une autre narration dans les relations Afrique-France et quelles opportunités peuvent s'ouvrir à eux pour tisser un lien entre le continent et la diaspora? C'est notre sujet de discussion dans l'émission d'aujourd'hui avec mes invités. Tout de suite, on écoute ce reportage de notre correspondant Fabien Essiane. Qu'attendent les jeunes du Cameroun de ce nouveau partenariat qui inclut la société civile et la jeunesse? Il a promené son micro à Yaoundé.
Institut français de Yaoundé, un après-midi. Une quarantaine de jeunes gens sont réunis autour de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillot. Certains d'entre eux ont participé en présentiel, tandis que d'autres l'étaient en virtuel. La rencontre porte sur les attentes de ces jeunes. Après près d'une demi-heure d'échange, le représentant de la France est séduit par leur enthousiasme.
Moi, ce que je ressens de la jeunesse camerounaise en particulier, c'est une grande attente à l'égard de la France. Ce que je vois maintenant, c'est que une partie de la jeunesse camerounaise s'adresse à nous en essayant de comprendre ce que la France va modifier dans son approche à l'égard du Cameroun. Et ce que je leur dis, c'est qu'on est pour l'instant, on est dans un moment de recueil, d'observation, d'écoute.
Parmi ces jeunes, Stéphanie Ndomo, elle a la trentaine à peine dépassée. C'est la directrice du programme culturel La Route des Chefferies. Elle fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle offre de coopération de la France.
Je m'attends à une coopération plus accentuée entre la société civile camerounaise et la société civile française. Je m'attends à plus de partenariats, plus d'échanges, à plus d'ouverture également des deux côtés. C'est-à-dire que moi, en tant qu'actrice culturelle, j'aimerais avoir plus de facilité de pouvoir mener des activités en France et également d'ouvrir les activités que nous menons ici à des Français qui seraient intéressés.
Pour une fois, la jeunesse est au centre des préoccupations de la France. Une nouvelle orientation de ses relations avec l'Afrique et qui permettra à coup sûr à la jeunesse de passer à une nouvelle étape.
Moi, personnellement, j'ai été ravie d'apprendre cette nouvelle orientation du sommet Afrique-France. Déjà même, le fait qu'on ait modifié l'appellation de ce sommet-là, ça montre déjà que les Africains sont beaucoup mieux pris en compte que par le passé. Et le fait également que ce sommet soit ouvert cette année à des jeunes entrepreneurs, à la société civile, à la jeunesse et à des thématiques qui, moi, m'intéressent particulièrement, comme la culture. Oh, ça fait que la jeunesse africaine se sent prise en compte, en tout cas dans ce sommet, qui n'est plus réservé seulement à la politique, mais qui concerne également tous les autres domaines, comme le sport, le numérique, la culture. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un nouveau regard sur les relations Afrique-France, parce que ces relations ont forcément changé. C'est pas le même regard que les jeunes ont. Les jeunes n'abordent plus cette coopération de la même manière. Cette nouvelle relation-là, on espère qu'elle va ouvrir des perspectives pour la société civile africaine qui en a besoin. La société civile africaine aujourd'hui est très forte, elle est dynamique, elle travaille vraiment au développement du continent. Et il faudrait qu'elle ait plus de place dans la prise de décisions politiques. Et c'est en cela que ce sommet est intéressant cette année.
Dassi Hilary Djoko est une jeune entrepreneuse camerounaise. Elle a été primée à plusieurs reprises pour ses travaux et ses découvertes en lien avec la protection de la nature et l'emploi des jeunes. Présente à Montpellier, la jeune dame pense que la jeunesse africaine est une puissance en devenir, mais elle devrait croire en elle et en sa force.
En Afrique, nous sommes pratiquement 30 millions de jeunes diplômés qui inondent le marché de l'emploi chaque année. À côté, nous sommes le continent le plus jeune au monde, avec une population de plus de 75% jeunes. Ça constitue à la fois un très gros avantage, mais aussi un frein si les jeunes demeurent passifs, si les jeunes pensent que la manne tombera du ciel.
Mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil un sommet entre l'Afrique et la France. C'est le cas d'Ahmed Molu, étudiant en publicité, et de Ngonoga Marie-Viviane, doctorante à l'université Yaoundé 1. Ils pensent tous deux que ce sommet n'est qu'un nouveau prétexte pour la France d'asseoir son hégémonie sur l'Afrique.
Je n'aurais pas un grand intérêt à ce genre de sommet auparavant. Ce genre de sommet, pour moi, c'est beaucoup de théories, beaucoup de promesses faites, mais qui, au final, à mon sens, ne se font pas ressentir. Pourquoi pas? Ça pourrait ouvrir d'autres opportunités à nous qui sommes ici au pays de faire fructifier notre talent et peut-être le faire valoriser à l'extérieur.
Quand on parle déjà de la jeunesse africaine, vous sentez déjà quand même qu'il y a anguille sous roche. C'est juste un folklore pour voiler les yeux. Que ce qu'ils disent, qu'ils le concrétisent. Ce sommet d'abord, je n'ai jamais compris son utilité. Pourquoi pas Afrique-Occident, regroupant tous les pays? Pourquoi France? Ça sonne très mal. Ça veut toujours dire qu'il y a une hégémonie. Donc ça veut dire que la France veut toujours garder l'Afrique sur sa coupe.
Mais au-delà de toute considération, le sommet Afrique-France qui vient de s'achever laisse croire à un avenir nettement prometteur, avec de nouvelles perspectives. Un espoir renaît donc auprès des jeunes Africains qui espèrent entretenir avec la France une relation gagnant-gagnant. Une marque qui donnera désormais une autre perception et une nouvelle forme de relation entre l'Afrique et la France. Objectif ? Une collaboration à long terme.
Merci Fabien Essienne pour ce reportage depuis Yaoundé au Cameroun. Aïssata Anne, tout à l'heure je disais Aïssatou, je me corrige, Aïssata Anne. Alors vous avez écouté ce reportage, on sent encore une certaine colère, hein, une certaine réserve de la part de certains citoyens, certains Africains sur le continent par rapport aux relations Afrique-France. Ils ne sont toujours pas convaincus que ça peut changer.
Oui, après, moi, je peux donner un petit peu l'exemple du Sénégal. Il y a eu quelques mois un soulèvement au Sénégal extraordinaire, oui, de la jeunesse. Et c'est vrai que ça, c'était une situation quand même inédite. Et je pense que c'était un peu un mélange de colère par rapport au fait qu'il y avait le Covid, les difficultés d'insertion pour les jeunes. Il y avait aussi la question du lien avec la France, parce que tous les magasins Auchan, ou en tout cas tout ce qui représentait la France, avait été détruit, saccagé. Donc c'était un message fort de dire à un moment donné, on veut notre autonomie et on veut être détaché de tout cela. Et finalement, il y a eu aussi une proposition claire en disant, en tout cas de la part de l'État, de se dire qu'à un moment donné, ces jeunes-là, on va essayer de proposer des choses, de les écouter et de voir dans quelle mesure on peut les accompagner. Et je pense que l'État sénégalais a tenté en tout cas de proposer des choses pour que cette jeunesse puisse s'épanouir et avoir finalement cet échange, ou en tout cas avec la France, que ça puisse s'améliorer et qu'il y ait plus de se dire qu'à un moment donné, la France, et on est toujours sous la coupe de la France, de, oui, se dire à un moment donné que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant et que on doit avoir ce respect, finalement, qu'on soit jeune africain en Afrique ou qu'on soit africain de la diaspora. Oui. Et je pense que ça a été un message fort, en tout cas, envoyé au chef d'État français et sénégalais.
Ben, je pense que le message est quand même passé, parce que cette année au sommet, il n'y a pas de chef d'État. Voilà, ce sont que les jeunes Africains, des jeunes entrepreneurs, de la société civile, de tous les domaines qu'on retrouve dans le sommet. Alors Aïssa Banoro, en Côte d'Ivoire, vous avez écouté le reportage. Est-ce que c'est le même sentiment un peu de réserve, qu'on retrouve la même chose en Côte d'Ivoire?
Effectivement, actuellement en Côte d'Ivoire, c'est le même sentiment. Lorsqu'on a parlé du nouveau sommet Afrique-France, oui, et moi, lorsque j'arrivais, j'ai des amis qui disaient « Ah, encore les théories, vous allez aller, vous allez encore aller parler et vos propositions ne seront pas prises en compte ». En fait, depuis toujours, nos pays sont, depuis 60 ans, plus de 60 ans en Côte d'Ivoire, nos pays sont indépendants, mais on fonctionne, on vit comme si on était toujours colonisé. Mm. Donc du coup, aujourd'hui, lorsque on te parle de sommet Afrique-France, du nouveau sommet, les gens sont sceptiques. Ils disent, OK, on attend de voir. On attend de voir comment est-ce que, en fait, ce nouveau sommet-là va être pris, va fonctionner.
Vous y croyez?
Moi, j'y crois. Déjà, en fait, j'y crois parce qu'aujourd'hui, à ce sommet-là, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de chef d'État. Il y a majoritairement des jeunes chercheurs, en tout cas des jeunes. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes, en fait, qui proposent des choses. Et on a la chance d'avoir un président français qui est jeune.
Oui.
Donc du coup, qui est jeune. Donc du coup, on espère qu'il pourra prendre toutes nos propositions en compte. Et voilà, essayer de changer les rapports qu'on a aujourd'hui entre la France et l'Afrique.
Aïssata Anne, vous êtes convaincue que la donne peut changer? Que ça, oui, sera pas juste encore un sommet de plus, ça sera pas juste des discussions et terminé. Il n'y a pas d'acte concret qui va être posé.
Non, moi je pense que ce nouveau sommet, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure une personne sur le plateau, je pense que la jeunesse sénégalaise, elle a déjà pris conscience qu'il fallait qu'elle prenne sa place, quoi qu'il arrive. Donc je pense que les gens sont très engagés, ont envie que les choses changent. Donc finalement, je pense que le parti, en tout cas, le pari est pris, que ça puisse changer, parce que les jeunes sont de plus en plus engagés dans le milieu associatif. Oui. Les jeunes sont engagés aussi au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora africaine qui sont engagés de plus en plus dans les instances dirigeantes. Donc finalement, quand on est dans les instances dirigeantes, du coup, on peut prendre toute la place et on peut être entendu par rapport aux causes que l'on soutient. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer. Après, ça sera un long combat, mais je pense que c'est déjà le début de quelque chose, en tout cas.
Oui. Et la conscience politique et l'engagement citoyen est quelque chose, est un aspect qui occupe de plus en plus de jeunes. Écoutons cette auditrice.
Bonjour. Alors, on dit quoi? Moi, c'est Traoré Salimatana. Je suis doctorante en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux. Je suis originaire du Burkina Faso. Le nouveau sommet Afrique-France qui se tient à Montpellier, ce que j'en pense, c'est que c'est un sommet qui s'inscrit dans une réelle dynamique d'innovation parce qu'il donne la possibilité aux acteurs de la société civile, aux entrepreneurs et plus généralement aux jeunes du continent africain d'exprimer leurs réelles attentes vis-à-vis de nos gouvernants, mais aussi l'espoir qu'ils fondent sur la possibilité d'une collaboration réelle, saine et fructueuse avec la France. Mes attentes par rapport à ce sommet, c'est que ce ne soit pas le énième sommet qui soit à l'image de l'éléphant qui accouche d'une souris, mais plutôt que ça soit le sommet qui, en fonction des résolutions qui seront prises, soit suivi d'actions concrètes sur le terrain qui puissent impulser une dynamique de développement durable. Et le fait d'associer les jeunes à cette réflexion, c'est l'espoir que l'on réalise l'engagement de ces jeunes-là et aussi le devoir de ces jeunes par rapport à leur engagement citoyen et qu'ils ne soient pas obligés forcément d'être sous la coupole d'un parti politique ou d'une institution quelconque avant de pouvoir contribuer en leur façon au développement de nos différents pays et au développement du continent plus généralement. Alors j'espère que le message principal sera l'intérêt supérieur des populations africaines et j'ai bon espoir que nos représentants feront tache d'huile et que des initiatives pourront être développées dans ce sens et que même après le sommet, l'on ne soit pas là en train de regretter nos efforts.
Aïssata Anne, vous avez entendu cette auditrice. Est-ce que c'est possible pour les jeunes d'éviter une mainmise politique sur les engagements qui ont été pris lors de ce sommet, surtout que les jeunes puissent s'exprimer librement?
Oui, moi je pense qu'il n'y aura pas de mainmise parce que finalement les jeunes sont engagés, sont conscients, sont force de proposition, de projets innovants. Donc je pense qu'à un moment donné, je pense que le politique à un moment donné sera pas forcé, mais en tout cas, il sera obligé de composer finalement avec cette jeunesse. Et composer avec cette jeunesse, ça veut dire entendre, accepter et faire des choses ensemble.
Oui. Aïssa Banoro, on parle d'engagement citoyen et d'engagement politique. Vous avez été candidate aux dernières élections législatives en Côte d'Ivoire.
Oui, c'est cela.
Et vous étiez la plus jeune candidate d'ailleurs.
Non, je n'étais pas la plus jeune, mais cette année,
vous faisiez partie des plus jeunes.
Et cette année, il y avait énormément de jeunes candidats. Et en fait, tout ça pour dire que les jeunes aujourd'hui ont besoin, ont envie de s'engager, ont envie de proposer. Et nous, en Côte d'Ivoire, moi particulièrement, je suis très engagée en politique, je suis très engagée dans ma communauté, tout le monde, je suis engagée dans la formation et l'insertion. Et c'est pour ça que j'ai voulu contribuer aussi en me présentant aux législatives de mon pays.
Mais la politique, c'est quelque chose qui vous intéresse, donc,
oui.
En tant que jeune. Hein.
Oui, beaucoup.
Et comment vous avez vécu cette expérience?
Ça a été la plus belle expérience de ma vie. Franchement, parce que j'ai eu une expérience humaine que je n'aurais pas pu vivre.
D'aller au contact des gens, battre campagne.
Et moi, j'étais candidate à l'intérieur du pays.
Dans quelle ville?
À Divo,
oui.
Et du coup, il fallait battre campagne dans les villages, dans les contrées très reculées, dans les campements. Et tu découvrais... Moi, je ne savais pas qu'il existait, par exemple, des écoles où il n'y avait pas de toiture à Divo. Et c'était pour moi la première fois de voir ça, de voir des villas où il n'y avait pas de point d'eau. Et tu vois, tout ça, en fait, ça te permet de dire, on est tous à Abidjan, on lutte, on est engagé dans ce qu'on sait faire, dans la formation, dans l'insertion, mais il y a des réels besoins. Il y a des besoins en termes d'eau, d'adduction d'eau. La population dans le milieu rural a besoin, en fait, de juste avoir de quoi survivre.
Et ça, en fait, nous, les jeunes, on doit vraiment s'engager sur ces champs.
Aïssa Tahan, c'est important que les jeunes s'engagent en politique.
En politique, après, moi, c'est vrai que je ne suis pas forcément engagée politiquement, mais oui. Je suis engagée de manière associative, au niveau social. Donc pour moi, c'est une forme d'engagement et c'est une forme d'action politique, dans le sens où on est au plus près des populations et on œuvre pour que les populations puissent être mieux, améliorer leurs conditions, comme on peut, du coup, avec les moyens dont on dispose. Donc après, c'est pas forcément faire de la politique, mais du coup, c'est s'engager et faire entendre sa voix. Et finalement, comme l'a dit notre compatriote, Raïssa, c'est que vraiment, quand on met en place des projets et qu'on est véridique dans ce qu'on fait et qu'on a vraiment envie d'entendre les besoins et d'accompagner ces besoins et d'être force de proposition, je pense que changer les choses et changer le monde, peut-être, changer le monde, je pense que toutes les personnes ont leur place, que ce soit politique, tant qu'on est engagé, et qu'on le fait au service des populations, je pense que ça me va, moi, pour ma part.
Et Raïssa Banoro, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour repartir sur de nouvelles bases, pour que la jeunesse ait confiance en ce nouveau sommet Afrique-France ?
Déjà, il faut que la jeunesse sache que on ne va rien leur donner. On ne va rien leur donner, il faudrait qu'elle le prenne. Donc nous, on ne doit pas venir en fait dans ce nouveau partenariat en ayant en fait un sentiment d'infériorité.
Oui.
Donc il faut qu'on ait des rapports en fait d'équité. Donc aujourd'hui, il faudrait que les jeunes aient force de proposition, fassent des propositions concrètes, luttent également pour que ces propositions puissent être prises en compte et avancer.
Alors on dit quoi ?
Alors, près de 500 entrepreneurs et entrepreneuses se sont retrouvés pour échanger et nouer des collaborations. Nous recevons l'un d'eux et ce sera juste après le coup de cœur musical qui nous amène au Tchad. Solal de Afrotronix qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le titre que nous avons écouté en Solal, de quoi parle-t-il ?
Alors, c'est une forme de romance, mais en même temps une louange à une jeunesse qui prend des actions. En fait, Solal, c'est une fille qui sort et qui manifeste et elle prend des risques. Et son homme lui déclare sa flamme en disant: je t'encourage dans ce mouvement parce que tu donnes ta vie pour les autres et moi je suis prêt à donner la mienne pour toi. Et la chanson commence, il y a une manifestation, lui rentre du travail, elle n'est pas là. et elle décrit un peu l'ambiance et le risque qu'elle prend. Donc si tu es prêt à le prendre pour la nation, moi je serais prêt à prendre le même risque pour te garder en vie.
Une jeune femme très indépendante alors.
Féministe indépendante, oui.
Vous avez presté hein, devant tous ces jeunes réunis à l'Arena à Montpellier. L'industrie culturelle et créative fait partie des grands thèmes qui ont été abordés. C'était important pour vous, en tant qu'artiste, à prendre part à cette grande rencontre?
Très important en tant qu'artiste, mais surtout en tant que Tchadien, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas le pays le plus populaire en Afrique, le Tchad, et d'avoir l'honneur d'ouvrir. Ça symbolise beaucoup, spécialement parce que mon pays, pour le moment, traverse un moment difficile. Oui. Nous avons perdu dernièrement le président et nous évitons du mieux qu'on peut le chaos en essayant de rester unis. Et donc moi, ce micro est beau parce que ça me permet de rappeler, en tout cas, le parterre, la force de la jeunesse. Parce que pour le moment, c'est ce qui se passe chez nous. C'est la jeunesse qui tient un peu le pays ensemble et... c'est fort qu'ils auraient pu choisir Maître Gims ou Fally ou des artistes relativement connus, mais de me choisir, c'est de la lumière pour mon pays. C'est ça qui m'a spécialement touché.
Et vous êtes l'initiateur de Paix au Sahel qui consiste à promouvoir la paix et la stabilité auprès des jeunes au Tchad et dans le Sahel. Pourquoi?
L'enjeu est... Il faudrait dire que le Tchad reste quand même au cœur de l'Afrique et le risque est énorme que si ça éclate de l'intérieur... Il y a des foyers de terrorisme et tu vois, l'ancien président s'est investi à lutter contre le terrorisme parce que ça y va de la sécurité de toute la sous-région africaine. Donc, moi j'étais là quand c'est arrivé et je me dis si ça éclate au Tchad, mais ça va embraser le Cameroun, le nord du Nigeria, le Burkina certainement et ça y va de la sécurité de tout le continent.
Oui.
Voilà, donc j'ai trouvé important de faire ma part. Et aussi... Parce que j'ai une renommée au Tchad. Je suis, si vous voulez, un peu l'artiste numéro un au pays. Donc la jeunesse m'écoute encore. Et une jeunesse qui est très méfiante avec la politique en place.
Oui.
Donc moi, j'ai profité de mon micro pour leur rappeler leur importance. Et ça a été super. Et on pense faire la suite en décembre.
Et c'est bien accueilli quand vous allez, par exemple, à la rencontre de ces jeunes-là?
Oui, moi j'étais surpris, mais c'est la première fois que je rassemble autant de monde. On a fait des villes où il y avait au-delà de 25 000 personnes qui sortent à chaque soir et le résultat est positif. Et entendre toute la jeunesse scander, c'est nous le peuple, c'est nous la force, oui. C'est nous les boss. Ça, j'étais ému en étant sur scène de voir ça.
Vous êtes avec votre manager Afrique, Yannick Dix. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de l'accompagner sur notre plateau. Alors, ce programme qui a été mis en place par l'artiste Afrotronix, c'était important de pouvoir mettre ça dans un pays comme le Tchad, qui est un pays du Sahel.
Oui, justement. Donc, comme il le disait au préalable, la position stratégique du Tchad, sa position géostratégique, voudrait en sorte que ce soit un pays qui se trouve dans une situation de paix. Donc, au lendemain du départ du maréchal, dans des situations un peu tragiques...
Le maréchal, vous parlez de l'ancien président Idriss Déby?
Oui, Idriss Déby Itno, oui. Donc,
Idriss Déby Itno,
oui.
Voilà.
Et en fait, l'artiste a stoppé ses activités parce qu'on devait sortir l'album presque dans 3 mois avant son départ.
Oui.
Avant le décès, et il a stoppé les activités pour mettre sur pied ce projet, parce que vu les tensions, les poches de tensions qui se créent, on va au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, et ça n'arrête pas. Et il est assez sensible à la problématique liée au réchauffement climatique, et on s'est dit, ce serait le moment. Il n'y a pas un autre moment pour pouvoir apporter sa pierre à construire cette muraille de paix et cette muraille verte.
Et ce programme, est-ce qu'on peut s'attendre à le voir développé dans d'autres pays, que ça ne reste pas qu'au Tchad, Paix au Sahel, que ça arrive au Burkina, que ça arrive au Mali,
ouais.
Au Sénégal?
En fait, l'idée, c'est d'utiliser un outil qui va intéresser la jeunesse. Les jeunes sont captivés par ce qui est ambiance, chaud. Mmh. Et Afrotronix s'est dit, le show que je présente à New York, que je présente à Montréal, je vais le présenter à Bedaya, à Koumra, à Faya. Ça, ce sont les villages du Tchad. Et l'expérience, la première expérience a été faite. Elle est impressionnante. Vous pouvez aller sur la page d'Afrotronisme, vous verrez. Et pour la seconde étape, parce que c'est un outil de sensibilisation, oui, on veut trouver un format qui permettra d'interagir avec la jeunesse de façon décomplexée. Et parce que les jeunes en ont assez des politiques et tout. Ils veulent une nouvelle façon d'échanger avec de nouveaux profils. Et ça va se faire en N'Djamena. Ça s'est déjà fait. Et on compte poursuivre ça, la deuxième étape, à l'intérieur du pays, des villes qui ne sont pas couvertes. Et la troisième étape, c'est sur le continent, la bande sahélienne.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Vous avez un dernier mot rapidement. Qu'est-ce que vous voulez dire à la jeunesse ?
À la jeunesse africaine, de façon générale, je veux juste leur rappeler la force et le rôle qu'ils ont à jouer, à redéfinir l'africanité, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. N'oubliez pas que je pense qu'il faudrait tout le temps rappeler que c'est à nous de jouer aujourd'hui et que l'ancienne image figée de cette Afrique s'est dépassée et que soyons décomplexés. Nous avons ce qu'il faut aujourd'hui et ce qu'ils disent de nous, ce n'est pas ce que nous sommes. Donc, sortons, n'hésitez pas à vous présenter.
Merci Afrotronix d'être venu parler de tout ça avec nous. Tout de suite, je me tourne vers notre initiative de la semaine. Je sens qu'il s'impatiente peut-être un peu, mais en tout cas, qui a bien écouté, qui est avec nous depuis un moment déjà. Marc-Arthur Wourougou, bonjour à vous et bienvenue. Merci pour votre patience.
Merci à vous, merci.
Alors, vous êtes là pour nous parler de votre concept « Un logement pour tous ». Expliquez-nous beaucoup plus en profondeur. Ce concept parle de quoi ? Ce concept, il relève de quoi ?
D'abord, merci pour l'opportunité. Je suis Marc-Arthur Wourougou du Burkina Faso. Alors, je suis promoteur de la start-up Nice SRL, qui a son concept de « Logement pour tous ». Oui. Qui, depuis 2012, j'ai constaté que en matière de logement, surtout chez nous, nous avons des logements très précaires. Et lorsque, en saison pluvieuse, les femmes sont obligées de rentrer plus tôt lorsque la pluie se profile. Pourquoi ? Parce que il faut pas que, à cause de la pluie, l'eau stagne autour de la maison.
Oui.
Il faut faire
la maison s'écroule.
Exactement. Et ça a été le déclic. Ça m'a dit, ça a causé en moi un certain sentiment. Oui. Et je me suis dit, il faudra faire quelque chose, il faut agir. Et là, dans mes recherches, j'ai tombé sur une technique de construction en utilisant de la terre comme matière première. Mmh. Et cette technique-là consiste à fabriquer des briques avec de la terre, qu'on appelle des briques en terre compressée. Mmh. Et ce que la particularité, c'est que ces briques sont autobloquantes.
Quand alors, vous dites autobloquantes, ça veut dire quoi?
Autobloquantes, on n'a plus besoin de mettre du ciment entre les briques pour la construction.
D'accord.
Alors, elles s'emboîtent entre elles. C'est comme des Lego en quelque sorte. Et vu que la matière première, c'est la latérite, que nous avons approvisionnée à disposition, alors c'est là où nous avons dit, voici une solution qui jadis était utilisée, mais aujourd'hui, on tend à régulier ça au second plan par rapport au ciment. Mmh. Alors c'est là où nous avons multiplié les recherches de financement et tout ça.
Et ça a été difficile pour mettre le projet en place parce que vous aviez commencé bien avant, vous avez commencé
2012, effectivement. Voilà. L'idée est née en 2012 et c'est finalement en 2018 que nous avons été sélectionnés.
Par manque de financement, ça
exactement. Par un programme qui a été lancé par l'État burkinabé qui s'appelle Burkina Startup. Mmh. Et nous avons été retenus et c'est par ce biais-là que nous avons pu effectivement commencer nos activités en 2019.
Mmh. Alors la difficulté d'avoir des partenaires financiers pour pouvoir mettre en place ce type de projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre en vous trouvant, par exemple, sur en participant à cette rencontre Afrique-France? C'est une façon pour vous de rencontrer des partenaires?
Absolument. On a eu la chance de participer à Ambition Africa, ainsi qu'au BIC. Nous avons rencontré pas mal de personnes qui sont intéressées par ce que nous faisons. Et c'est la difficulté de pas mal de jeunes sur le continent à trouver les financements pour leurs projets. On pense que vous êtes jeune, votre projet, c'est pas évident que ça se réalise.
Oui.
Les financiers traditionnels comme les banques veulent d'abord voir que vous avez un truc en place bien fait, ficelé, avant de vous accompagner. Alors que bon, avant qu'on puisse vous accompagner, il faut démarrer.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Donc, cette occasion a été vraiment une aubaine pour nous de pouvoir échanger avec diverses personnes. Oui. Qui nous espérons très bientôt voir se concrétiser en investissement.
Et c'est quoi l'avantage d'avoir un logement fait avec des briques conçues par de la terre compressée? C'est quoi les avantages?
Alors, elles sont multiples, ces avantages. Mais le premier avantage que l'on va dire, c'est le côté énergétique, le côté thermique. Parce qu'il faut dire que la terre, elle est neutre, elle n'a pas d'éléments chimiques. Et lorsque vous construisez avec la terre, alors elle contient la fraîcheur à l'intérieur des maisons. Et il faut
surtout qu'on est dans un pays très chaud comme
absolument
le Burkina.
Absolument, très chaud comme le Burkina. Il faut souvent 45 degrés à l'ombre. Alors, quand vous dormez dans une maison faite en BTC, alors il est fait moins chaud que dans les maisons faites en ciment. Et l'autre avantage aussi, c'est que lorsque vous dormez dans une maison faite en BTC, contrairement à d'autres qui dorment dehors parce qu'il fait chaud.
Oui.
Alors, en dormant dehors, il y a les moustiques et tout ça, ça crée encore d'autres maladies. Donc, du coup, avec les BTC, alors vous avez ce confort thermique qui est là. Ça vous permet aussi de réduire votre facture énergétique. Et aussi, il y a le côté esthétique aussi. Voilà.
Ça BTC, donne des briques très rouges.
Très rouges et vraiment très, très jolies à voir.
Et ça c'est écologique aussi.
Absolument écologique. Et ça fait que nous avons, à travers notre brique, développé ce concept 3E qui veut dire économique, écologique et esthétique.
Oui. Et vous nous avez entendu tout à l'heure discuter avec les invités de ce nouveau sommet Afrique-France en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, en tant que jeune Africain venu du continent?
Déjà, la visibilité, c'est ce qu'on fait. Des partenaires aussi. Montrer aussi à la génération, aux jeunes qui sont au pays, que tout est possible. Voilà. Il ne faut pas se murer sur ce pessimisme que voilà, sans financement, on ne peut rien faire. Non, il faut quand même commencer quelque part. Et la preuve aujourd'hui, c'est qu'on est là et qu'on a l'occasion et l'opportunité de pouvoir raconter des personnes avec lesquelles on échange et qui vont bien sûr se concrétiser en quelque chose de positif. Oui.
Merci beaucoup à vous, Marc Arthur Ourougou, promoteur du concept Un logement pour tous au Burkina Faso. Merci d'être venu parler de ce très beau projet sur notre plateau. Je remercie également nos invités, Raïssa Banoro, lauréate 2017 du concours Challenge App Afrique RFI et France 24. Merci à vous d'être venu. Vous êtes aussi entrepreneur dans l'éducation et le numérique. Merci à vous. Et Aïssata Anne, merci à vous d'être venue. Vous êtes la co-directrice de l'association Cœur du Fouta qui agit entre le Sénégal et la France.
C'est ça.
Merci à tous ceux qui étaient avec nous sur le plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à Guillaume, notre réalisateur, à Beverly pour les réseaux sociaux et le lien avec les auditeurs. Et merci à toutes les équipes qui ont rendu cette délocalisation possible à Montpellier à l'occasion du sommet Afrique-France qui s'est tenu hier vendredi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Prenez soin de vous. Corandogu manandam badanu ko bunda bar kau kau.